Bonsoir chers auditeurs, nous voici à notre rendez-vous comme d'habitude, notre rendez-vous du mardi soir, une fois tous les 15 jours. Et ce soir, comme prévu et comme annoncé, je reçois mon vieil ami Jean Larmande, qui appartient à une vieille famille de l'Algérie française, un vrai pied noir. Qui est président d'ailleurs de l'association algérianiste
le cercle
algérianiste de Neuilly et d'Île-de-France. Il en est le président et qui a été autrefois président de la FNEF. Nous étions étudiants ensemble dans les années 60 au moment de son retour d'Algérie. Alors Jean, nous reprenons notre affaire et nous, je le rappelle à nos auditeurs, nous avons donc commencé une série sur l'histoire de l'Algérie pour bien comprendre ce qu'était véritablement l'Algérie française, parce qu'on raconte n'importe quoi et on fait comme s'il était absolument normal qu'on ait liquidé l'Algérie comme ça en 1962, après avoir crié Algérie française en 1958. En 4 ans, on a expédié l'affaire et c'est comme ça qu'on a installé sur un pouvoir en Algérie, et un pouvoir d'ailleurs tout à fait contesté, y compris par les Algériens eux-mêmes, un groupe de terroristes qui se sont d'ailleurs substitués les uns aux autres puisqu'ils se supprimaient les uns les autres, et qui sont la cause de nos rapports extrêmement déplorables et entre l'Algérie et la France, mais non seulement ça, mais de l'État de l'Algérie. Et moi, je suis de ceux qui pensent que aussi ça a eu des conséquences sur la France, morale, politique, économique et même financière. Ouais. Donc, et qu'on en paye encore aujourd'hui. Et donc, il s'agit d'examiner les choses de façon un petit peu, on va dire un petit peu haute, de les comprendre, de voir pourquoi il existait là une société qui avait l'avantage d'exister, même s'il y avait des, comme dans toute société, il y avait ce qu'on appelle des abus. Il y a toujours eu des abus, y compris dans les sociétés qui se prétendent parfaites, et même les sociétés des journalistes.
La perfection n'est pas de ce monde.
Exactement. Alors, Jean, je me tourne vers... Je te vouvoie au micro. Nous allons nous vouvoyer au micro, mais chacun doit comprendre qu'on se connaît suffisamment pour se tutoyer. Merci, Jean, d'être là d'abord. Et puis, à vous la parole.
Alors, dans la première émission de nos... nous sommes dans la troisième. Oui. Dans la première émission, au mois de 27 janvier... Nous avions étudié le lointain passé de cette région géographique qui, à l'époque, ne s'appelait pas du tout l'Algérie. On avait couvert l'époque qui allait depuis, la Grèce, parce qu'avant, on n'avait pas grand-chose, la Grèce, la Numidie, les Byzantins, les Romains, jusqu'à l'invasion arabe du 8e siècle. Dans la seconde émission, il y a un mois maintenant, le 24 mars, on avait traité de l'époque turque au 19e siècle, de la piraterie correspondante en Algérie, en Méditerranée, surtout occidentale, et puis de l'expédition d'Alger avec la prise de la ville, le départ des Turcs et le début de l'implantation de la France.
Et donc aujourd'hui, le débarquement de Sidi Ferruch.
Et aujourd'hui, nous allons traiter de la dernière étape de la conquête, en gros jusqu'au milieu du 19e siècle, la deuxième partie du 19e siècle, ce sera la fin. Alors, je reprends donc ça à l'époque, c'est-à-dire que au moment où le maréchal Soult, qui est le président du Conseil français, institue en 1834, le régime des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, anciennement régence. C'est exactement l'acte de naissance de l'Algérie, qui auparavant n'existait pas en tant qu'État, pays ou quoi que ce soit. C'était des tribus dans la montagne, dans la plaine,
etc. Il n'y avait
même
pas de cohésion entre les populations.
Non, parce qu'il y avait une grosse partie de berbères et une grosse partie d'arabes qui ne s'entendent pas du tout. Et qui d'ailleurs, honnêtement, aujourd'hui ne s'entendent pas non plus. C'est d'ailleurs pour ça que Glaize est enfermé en Algérie, parce qu'il a commis il a commis le crime d'aller rencontrer le président ou le directeur, je ne sais plus quoi, d'une équipe de football berbère.
Mais Kabyle.
Comment?
Kabyle.
Oui, mais alors je... Oui, bah, Kabyle. Mais attendez, les Kabyles sont des berbères et c'est le nom que l'on donne aux berbères en Algérie parce que la plus grosse partie était en Kabylie. Et alors, si vous me permettez un petit souvenir personnel des relations entre berbères et
arabes,
arabe, c'est en 1977, ou en 78, je ne me souviens plus exactement, j'arrive chez Hachette en tant que secrétaire général des activités internationales, et puis je fais des tours des filiales. Et le DG de Hachette me dit « Ah Jean, vous allez au Maroc, hein, eh bien essayez de voir pourquoi les deux dirigeants d'activité qu'on a là-bas n'arrivent pas à s'entendre. » Alors l'un d'entre eux était responsable de l'activité presse, et donc des kiosques de vente de presse, etc., etc., et de papeterie, et l'autre c'était l'édition scolaire, etc. Je reviens, et puis à ce moment je prends un moment, il me dit « Ah ben, ça y est, vous avez réussi ?» Je lui dis non, je n'ai même pas essayé et je n'essaierai pas. Mais pourquoi? Ben je lui dis parce que l'un est un berbère, l'autre est un arabe. Et l'un et l'autre m'ont dit le plus grand mal de l'autre.
Oui, bien sûr.
Et c'était pas au XVIIe siècle. Hein.
Oui, bien sûr, mais bien sûr.
Bon, alors je reviens là-dessus. Je dis donc, le maréchal Soult sort son ordonnance. Et précise.
Elle est fondatrice, par conséquent.
Elle est fondatrice, etc. Et, bon, et pour ce que je viens de dire, il précise que la politique à suivre à ce moment-là est celle de l'occupation restreinte. C'est-à-dire, je cite là aussi, de conserver les villes fortifiées ainsi que les territoires que nos troupes peuvent facilement défendre et de chercher à étendre l'autorité et l'influence de la France qui vient des droits qu'elle tire de la conquête qu'il a substituée à la régence. Voilà donc
comme cadre. Oui.
Alors, compte tenu des moyens disponibles, parce qu'il n'y a pas énormément de troupes, etc., etc., l'objectif initial de cette occupation restreinte a été le contrôle de ce qu'on appelait le Dar el-Sultan, c'est-à-dire la région du sultan, qui est essentiellement la Mitidja, la grande plaine marécageuse de 300 km au sud d'Alger, entre Alger et l'Atlas, et ainsi que les ports d'Oran et de Beaune. Mais c'était en fait là le maximum de la conquête, enfin de l'occupation turque. Le reste, les Turcs ne s'en occupaient pas. Ils contrôlaient, mais ils n'en occupaient pas.
Et au départ, les Français s'intéressent à cette partie-là et uniquement à cette partie-là. On comprend pourquoi. C'est parce qu'on
n'a pas les moyens.
Ben bien sûr, il faudrait des moyens considérables.
Donc, on fait ça, mais en même temps, on cherche des accords avec les chefs de tribus locales. Et on verra que c'est ça qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite qu'on le pensait. Alors, dans cette région, donc, au sud d'Alger, les Arabes de Blida, qui est une ville à une soixantaine de kilomètres au sud d'Alger, demandent tout de suite à être protégés des exactions des Hadjouts. Les Hadjouts étaient des tribus arabes de pillards, comme beaucoup de tribus arabes de ce genre dans la plaine. Alors, évidemment, Droederlon, qui est à ce moment-là le commandant en chef, ça l'aide à contrôler la région, puisqu'il a un point d'appui à 50 km, ça lui permet de contrôler beaucoup mieux. Mais il cherche à étendre ça, mais il ne parvient pas à prendre le contrôle de Médéa, qui est un peu plus au sud, qui est dans la montagne et qui est tenue par les Berbères. Et là, il n'y a pas de Hadjout, donc il n'y a aucun intérêt qu'on vienne.
En réalité, c'est une alliance, cette extension.
Oui.
C'est en fait une alliance.
C'est une alliance, mais une occupation du terrain, on va le voir après.
Bien sûr.
Alors, aussi, il en voit aussi, enfin, on envoie aussi des troupes dès 1830 à Oran et à Beaune,
oui.
qui étaient les deux autres ports importants, mmh. puisque l'occupation turque, qui était surtout, il faut rappeler qu'elle était intervenue parce que les pirates, qui étaient les frères Barberousse, avaient demandé l'appui du sultan pour résister aux tentatives des Espagnols, et surtout oui. de Charles Quint,
oui.
qui avait
oui.
tenté de prendre Tunis, puis Beaune, puis et Alger, etc., et Oran. Mm. Il envoie des troupes dans ces villes, mais sans y monter quoi que ce soit, y monter grand chose. Et Bougy, qui est le port situé entre Alger et Beaune, qui doit être à 150 oui. km d'Alger à peu près, est prise en 1833. Et un accord est conclu, un accord est conclu avec le cheikh local, donc le chef de tribu local, qui garantit à la France la ville et le port de Bougy, qui était vraiment c'est un très bon port, et qui se charge du contrôle des tribus voisines. Donc on est typiquement dans la mission donnée
par Soult. Oui.
Par Soult. Alors, plus à l'est, donc vers la Tunisie, le Bey Ahmed, je l'avais dit la dernière fois, c'est que l'organisation de l'Algérie à l'époque turque, il y avait un D à Alger, les deux principaux, il y avait le baie du Titeri dans la région, oui. il y avait surtout le baie d'Oran et le baie de Constantine.
Oui.
Bon, le baie du Titeri, c'était à Alger, donc le contrôle était pris. Il y avait celui d'Oran et de
Constantine.
Donc le baie Ahmed, lui, voit ça et puis se dit, il menace Beaune. Il veut attaquer Beaune. Et pour résister à ça, Clausel, donc qui a succédé au maréchal de Bourmont, monte une opération pour prendre Constantine, la capitale de Ahmed. Mais il la lance un peu vite, un peu tard, surtout au mois de novembre, en 1836, et avec insuffisamment d'artillerie. Elle échoue. Alors Clausel est aussitôt remplacé par le général Danrémont, qui tente une négociation avec Ahmed. Mais Ahmed, qui avait été envoyé là par le sultan avant le 1830, rompt les négociations.
Et puis Constantine se croyait imprenable.
Oui, tout à fait. Bah oui, avait résisté à la conquête de.
Oui. Il y avait les fameuses portes de fer.
Non, c'est pas Constantine.
C'est pas Constantine.
Non, c'est pas Constantine. Donc comment s'appelle-t-il ? Danrémont négocie en disant « Moi, je veux conserver le contrôle des territoires que l'armée a occupés
oui.
et je veux que tu payes un tribut. » Évidemment, Ahmed, qui espère toujours que le sultan va intervenir, etc., rompt les pourparlers. À ce moment-là, ordre du roi Louis-Philippe et avec le soutien de Molé, qui est le premier ministre, qui dit à Danrémont, prenez Constantine. Donc Danrémont, qui est appuyé par le duc de Nemours, qui est en Algérie à ce moment-là.
Un des fils de Louis-Philippe.
Le troisième fils de Louis-Philippe, monte une expédition. Alors cette fois-ci puissante, il y a à peu près 10 000 hommes, une forte artillerie. Alors ils arrivent, en rase campagne, ils arrivent devant Constantine. Le siège commence le 10 octobre 1837. Le 12, donc on commence à se tirer, etc. Le 12, qui est la veille prévue pour l'assaut, Danrémont est en inspection des troupes et il est tué par un boulet de l'armée arabe, et ainsi que le général Perrigo qui est avec lui. Alors Vallée, qui est le général Vallée qui commande l'artillerie, le remplace tout de suite. Et le lendemain matin, l'armée, et en particulier les zouaves du général Lamoricière, emportent la ville. Le Bey Ahmed va se réfugier en Kabylie, où il reste jusqu'à sa reddition au mois de juin 1848.
D'accord.
Alors, Vallée reçoit son bâton de maréchal le 11 novembre et devient gouverneur général le 1er décembre 1837. La question de l'Est algérien est à peu près, enfin tout au moins, dans la partie nord de l'Est algérien, c'est-à-dire entre Constantine et la mer, est résolue. Il reste, dans ce coin-là, il y a une petite région qui s'appelle la Kabylie, dont on parlera plus tard.
Notons pour nos auditeurs que, à l'époque où les Français étaient capables de célébrer leur héros véritable, eh bien, on donnait des noms de rue, non pas à des zigotos, à des brillants ou à des gens comme ça, mais on donnait les noms de rue au maréchal d'En Raymond.
Voilà. Oui, attendez, il y a...
Et Perregaux également.
Oui, tout à fait. Mais il y a, moi ça me fait plaisir, je vais souvent aux Invalides, et il y a, au côté de l'esplanade des Invalides, côté est, une rue de Constantine.
Oui, bien sûr. Et qui évoque la bataille de Constantine.
La prise de Constantine. Et tu me rappelles celle qu'il y avait à Alger, près de l'Opéra, où était le cabinet médical de mon grand-père.
D'accord.
Voilà.
Non, mais tout ça est important pour qu'on comprenne et que c'est tout à fait récent, cette espèce de haine que nous avons de notre propre histoire, de cette histoire de l'Algérie qui a été en grande partie glorieuse, même s'il y a, comme dans toute histoire, des, comme on dit maintenant, des pages sombres. Bon, bah, très bien, il y a des pages sombres. Il y a des pages glorieuses.
Mais oui.
Et dans Raymond, c'est une page glorieuse.
Exactement. Alors maintenant, on va repartir à Alger et cette fois-ci vers l'ouest, à Oran. Donc à Oran, le général Desmichel, qui commande la ville, ne dispose que d'un effectif militaire réduit. Et il cherche l'appui d'un chef de tribu. Alors, Abdelkader est le chef d'une importante tribu dans la région de Mascara.
C'est ça.
C'est un peu au sud d'Oran. Et il est jeune, il a 24 ans à l'époque. Il est très croyant, musulman bien sûr, et très ambitieux. Alors, il regroupe autour de lui plusieurs tribus de la région et se proclame émir el-Moumin, c'est-à-dire commandeur des croyants. C'est pour un peu résister au Maroc, mais on en parlera tout à l'heure.
Oui, mais c'est important cette dénomination. Alors, parce que ça leur donne une autorité, pas seulement politique et militaire, mais également juridique et religieuse. Oui. Parce que la religion là-bas, elle imprime le droit.
Oui, mais attendez, oui, tout à fait. Il n'y a pas, disons, le civil n'existe pas. Et quand, par exemple, je saute quelques siècles, quand, par exemple, on nous dit aujourd'hui, ah, mais regardez, il y a une enquête et les musulmans considèrent que la religion est plus forte et doit être mise au-dessus des lois.
Mais ça
bien sûr, c'est le Coran.
C'est le Coran et ça a toujours été comme ça dans leur esprit, bien sûr.
Bon, alors donc, en 1832, donc, Abdelkader tente d'attaquer Oran et échoue. Mais Desmichel négocie avec lui parce qu'il n'a pas beaucoup de troupes, etc. Mmh. Et en février 1934, il signe, sans avoir l'accord de Voirol, qui est son chef, qui est le commandant en chef en Algérie, un traité dans lequel il n'y a pas de reconnaissance de la souveraineté française par Abdelkader. Il concède seulement à la France la possession d'Oran, d'Arzeux et de Mostaganem, donc trois ports, ainsi que la liberté de commerce. Et surtout, dans cet accord, il n'y a aucune autre règle dont ça laisse à Abdelkader toute liberté pour contrôler la région et les autres tribus, au détriment de la France. Il commence tout de suite en essayant de prendre le contrôle de Ben Ismaël, qui est l'agha des Douairs et qui avait offert ses services à la France.
Oui, bien sûr.
Bon,
oui.
C'est alors en 35, donc deux ans plus tard, Trezel, qui a remplacé Desmichel à Oran, tente avec l'aide de Ben Ismaël de contrôler Abdelkader. Mais il l'attaque en juin, mais il est battu à la bataille de la Makta. Et alors Clausel, qui est de retour, remplace Trezel et reprend Mascara et Tlemcen sans réaction d'Abdelkader, parce que ce dernier est très occupé par le renforcement de son armée. Il a à peu près déjà 9000 hommes. Alors, il importe assez discrètement des armes et de la poudre, parce qu'il y a du commerce, il y a, les ports sont près de chez lui, etc. Du
et
commerce
puis par le Maroc, les, probablement, vraisemblablement aussi.
Ou de l'Espagne, etc. Oui. Il construit des ateliers de sidérurgie pour fabriquer des armes. Il regroupe les tribus et il établit une monnaie pour unifier tout ça. Donc, devant ça, le gouvernement de Molé envoie un corps expéditionnaire commandé par le général Bugeaud, dont on reparlera oui. après, qui bat Abdelkader à la Skida en 1836. Mais élu député, Bugeaud rentre oui. en France. Donc la situation continue et le général Darlange, qui commande des troupes, est battu par Abdelkader. Et la France,
De nouveau,
oui. Et la France, par le traité de Latafna, en mai 37,
oui.
Alors ça c'est le reconnaît à Abdelkader l'autorité sur tout le beylik de l'Ouest, c'est-à-dire toute la région à l'Ouest d'Alger, etc. Sauf les villes d'Oran, d'Arzeux, de Mostaganem et de Mazagran.
Oui.
Mais il reconnaît aussi son autorité.
Sauf la bande côtière.
Non, sauf les villes.
Les villes. Même pas la bande côtière.
Non, de toute façon, entre les deux, il n'y a rien.
Oui, c'est ça.
La côte est assez rocheuse, donc il y a les ports, etc. etc. mais
d'accord.
De toute façon, bref. Alors, il n'a pas autorité sur Oran, Arzeux, Mostaganem et Mazagran, mais il a autorité sur la plus grande partie du beylik du Titeri, c'est-à-dire le beylik de la région d'Alger, sauf Alger, le Sahel et la Mitidja. Donc, en fait, il a les deux tiers de l'Algérie, de ce qui est aujourd'hui la géographie de l'Algérie. Alors, Abdelkader reconnaît, mais en termes très vagues, la souveraineté de la France et le droit aux Européens de s'établir sur son territoire. Quand on regarde ça, on se dit que le traité de Latafna est la plus grande défaite de la France en Algérie. Jusqu'aux accords d'Évian.
Voilà, exactement. Et à Latafna, on n'était quand même pas déshonoré, tandis qu'aux accords d'Évian, on a été en plus déshonoré.
Oui, et puis surtout, Latafna...
La France en tant que telle.
Et puis, après Latafna, il y a la suite. Donc oui, je vais parler maintenant. Alors qu'après les accords d'Évian, la suite, on l'a vu aujourd'hui.
Bien sûr.
Abdelkader poursuit son action de regroupement et de créer un empire, en fait. De créer, non pas un empire, de créer une zone qu'il contrôle.
Et en fait, il est très heureux, d'une certaine manière, de l'occupation française, parce que c'est elle qui
a
justifié... Mais bien sûr, qui a justifié son action et sa prétention. Sinon, il serait arrivé à rien.
Tout à fait. Et là,
comme c'était un esprit intelligent et politique... C'est quelque chose que, à mon avis, il a quand même intégré assez vite.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Tout à fait. Alors, il poursuit son action, il ne s'occupe pas de la France, là, il contraint à l'obéissance les tribus du Titeri et les tribus juste à la frontière marocaine.
Et c'est ça.
Dans le sud, il prend Biskra, Odé Ahmed, donc encore une fois, et fait massacrer les Kouloudli de Tlemcen, qui sont alliés aux Français. Je rappelle ce que c'est que les Kouloudli. Ce sont les enfants des Turcs et de femmes arabes ou berbères.
Qui sont considérés comme d'une sous-classe.
Aussi bien par les berbères que par les arabes.
Mais pas par les Français.
Non. Mais non, parce que le...
Non, mais il faut expliquer ça, parce qu'à l'heure actuelle, on raconte n'importe quoi.
Mm-hmm.
Mais le plus grand mépris, comme l'esclavage... a été pratiqué essentiellement par les Arabes, les tribus et même les tribus noires entre elles. Voilà, c'est ça la vérité historique.
Tout à fait.
Le tort des Européens, c'est d'avoir marché un peu dans cette affaire eux aussi. Concrètement, c'est eux qui ont mis fin ou qui ont essayé de mettre fin à cette pratique qui était millénaire.
Mais d'ailleurs, là, je fais un aparté, je fais un saut de quelques d'un siècle à peu près. C'est que quand on regarde en Afrique noire la colonisation française, on s'aperçoit qu'elle suit les fleuves, etc., etc. Mais que dans les faits, à chaque progression, c'était que le village ou la tribu qui était en amont du fleuve venait voir le commandant français, qui pouvait être un capitaine ou un colonel, en lui disant « Viens nous aider parce que les Arabes viennent enlever les femmes et les hommes pour les femmes pour les harems et les hommes pour en faire des esclaves et il faut que tu nous défendes. Oui. » Et c'est comme ça que l'Empire français s'est construit. Mais malheureusement, au moment où De Gaulle a abandonné toute cette région en donnant l'indépendance, bien évidemment, il n'avait rien étudié. Et on a donné l'indépendance...
Ça n'intéressait pas, De Gaulle.
Comment ?
L'Afrique ne l'intéressait pas.
Oui, mais on a donné l'indépendance à des territoires qui étaient des territoires militaires d'administration.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc, par exemple, avec le Mali... Ben, la crise du Mali est toute simple. C'est qu'on a donné l'indépendance au Mali. Du coup, les esclaves, c'est-à-dire les Noirs, ont pris le pouvoir parce qu'ils étaient plus nombreux, au détriment des chefs qui étaient les Arabes.
Il s'est passé la même chose en Afrique centrale, oui, bien sûr.
Tout à fait, mais ça, au Mali...
Lugan raconte ça très très bien.
Oui,
l'esclavage en Afrique, organisé depuis des millénaires, c'est un des sujets de prédilection de Lugan et
oui,
sur lesquels il a porté un éclairage définitif.
Oui.
Et cet esclavage, comme il le montre, se poursuit aujourd'hui sans qu'on s'en rende compte.
Bien sûr, bah oui.
C'est-à-dire que ça perdure, les institutions perdurent et les enchaînements sociaux perdurent. Donc quand tu appartiens à une société, tu es prisonnier de cette société.
Alors je reviens en arrière.
Comme ça. Alors c'est formidable de penser que c'est des gauchos français, des bourgeois qui n'y connaissent rien, à la Macron et à la... qui reconnaissent ces autorités-là. C'est quelque chose de sidérant. Mais c'est amusant. Alors vas-y, continue,
alors,
parce que c'est passionnant.
Abdelkader, donc, qui construit son royaume, etc. Alors, en 1839, Vallée, qui veut relier Constantine à Alger...
Oui, qui est le général.
Gouverneur, on est en 39, bon, gouverneur, puisqu'on avait déjà créé le territoire, veut relier Constantine à Alger et organise, par l'intérieur, et organise une expédition de 4000 hommes à peu près, allant de Sétif à Alger, en passant par les portes de fer, qui est
les fameuses portes de fer,
un défilé.
Oui.
Et il reprend, en arrivant dans l'Algérois, la ville de Bouira, qui est au sud d'Alger.
Oui.
Alors, Abdelkader considère que c'est une violation du traité de la Tafna.
Ce qui est faux.
Mais pour lui, dans son esprit, c'est toute l'Algérie va être à moi.
Bien sûr.
Et il attaque la Mitidja, il massacre les Européens et ruine les colonies européennes qui étaient installées.
Qui commençaient à s'installer.
Oui, enfin là, on est en 39-40, oui. Il devait y avoir déjà une
quinzaine de milliers. Parce que ça a été une sacrée entreprise, tu vas nous raconter une sacrée entreprise de cultiver la Mitidja. C'était pas donné au départ.
Non, tout à fait. Alors, considéré comme responsable du désastre, Vallée est révoqué et remplacé par Bugeaud. Donc, à ce Bugeaud, je crois qu'il faut, en parler un tout petit peu maintenant.
Bien sûr.
C'est un général, mais il est aussi député.
Oui.
Et il bénéficie d'une grande confiance du roi Louis-Philippe et de son premier ministre Guizot. Donc il est complètement appuyé. Comme il a combattu en Espagne pendant 6 ans sous l'Empire, le Premier Empire. Donc il connaît la guerre civile.
Guerre de partisans.
La guerre de partisans. Et il réforme l'armée d'Afrique pour l'adapter à ce type de conflit. C'est-à-dire, on allège l'équipement des hommes, on utilise des convois de mulets ou de chameaux à la place de chariots.
Oui,
et je crois que c'est lui qui dit à ce moment-là que une colonne de mulets est une excellente base.
Oui.
Bon. Il crée des colonnes légères et mobiles et il a des réactions rapides et sans pitié. Alors c'est là on va rentrer dans un sujet. Face au massacre des Koulouglis et des prisonniers français par ses troupes oui. sans même que lui ait donné l'ordre. Il n'hésite pas, par exemple, à enfumer les grottes dans lesquelles les soldats arabes s'abritent pour les faire sortir.
Oui.
Alors maintenant, on le reproche.
On lui reproche.
On
oui.
reproche
oui.
ça de.
Oui.
Etc.
Mais il fallait savoir ce qu'avaient fait les soldats arabes auparavant. Enfin,
exactement, oui, mais ça.
C'est comme quand on reproche aux soldats français d'avoir. Exercer des représailles sur des troupes FLN, mais il faut savoir ce qu'avaient fait les troupes FLN auparavant.
Oui.
Égorger les femmes, les enfants, les éventrer.
Bon, je reviens à Bugeaud. Donc, enlève progressivement, attaque progressivement les points d'appui de, d'Abdelkader. Il prend Mascara en 41, il prend Tlemcen l'année suivante. Il crée une route entre Mostaganem et Blida pour communiquer facilement. Et il construit des bases pour ses troupes à Orléansville, à Tiaret et dans le sud à Loudjila. Donc c'est une progression très organisée. Mais ça c'est ce qu'il a appris une vingtaine d'années plus tôt. Alors de ce fait, Abdelkader perd petit à petit son assise urbaine. Il n'y a plus de ville. Et donc, il regroupe ses forces dans une capitale ambulante
oui.
qui s'appelle la Smala.
Voilà, exactement.
C'est un énorme ensemble sous tente, donc mobile, de 300 douars, c'est-à-dire à peu près environ 10 000 personnes, et dont des femmes et des enfants, bien sûr, parce que tout le monde voyage. Il n'y a plus de capitale,
oui.
donc les familles sont là. Ils sont protégés par à peu près 5 000 soldats réguliers. Et donc, il se déplace dans la région. Et au mois de mai 43, le 16 mai 43, le duc d'Aumale attaque par surprise la Smala, essentiellement avec les cavaliers du général Maurice et les spahis de Yusuf.
Oui.
Il fait plus de 3600 prisonniers et récupère un énorme butin. Du coup, les tribus de la région...
Et Aumale est très jeune, hein. je ne sais pas quel âge il a, mais il est très jeune.
Oui,
en
fait. Tout à fait.
Il est général, parce qu'il est le fils de Louis-Philippe.
Oui, mais il est déjà intervenu plusieurs
oui,
fois.
Oui, tous les fils de Louis-Philippe étaient d'abord de brillants soldats, et en plus des gens extrêmement courageux sur le terrain. Extrêmement courageux. On regrette qu'une chose, c'est qu'en 48, il n'ait pas pris les choses en main. Pour empêcher cette stupide révolution, aussi stupide que les révolutions précédentes.
Mais d'ailleurs, là, on le dira tout à l'heure, mais c'est que, aussi bien la révolution de 1830 que celle de 1848, le premier souci du régime qui se met en place, c'est de virer le commandant de l'armée en Algérie, c'est-à-dire Bourmont en 1830 et Aumale en 1848, pour éviter qu'ils reviennent avec une troupe entraînée,
bien sûr,
etc.
Bien sûr.
Bon.
Bien sûr.
Mais,
bien sûr.
Alors, je reviens là-dessus. Donc, le duc d'Aumale attaque par surprise la Smala, fait des...
C'était dans quel coin? Où se trouvait-elle à ce moment-là?
Elle se trouve, en gros, sur dans le sud, à mi-chemin entre Alger et... Alger et Oran, mais un peu au sud.
Un peu au sud, c'est ça, d'accord. Oui, oui, non, mais ça va.
Je dois avoir ça comme là-dessus.
Je situe, oui, oui.
J'ai pas le... Du coup, les tribus de la région donc, se soumettent en masse.
Oui.
Et Bugeaud est promu maréchal de France en juillet. Et il proclame... La guerre sérieuse est finie. C'est pas tout à fait exact,
pas tout à fait exact.
Mais très large. Non, mais très largement parce qu'ensuite il n'y a plus à peu près. Mais Abdelkader quand même regroupe les débris de Zasmala dans ce qu'il appelle la Deira, c'est-à-dire le cercle, beaucoup plus petit que ça, et se tourne vers le sultan du Maroc, qui lui est très inquiet de l'installation des Français à Tlemcen, qui est une vieille ville arabe qu'il convoite. Il faut rappeler. Voilà que le Maroc n'a jamais été sous l'autorité turque. Il est resté toujours très indépendant.
Oui. Oui.
Et que le sultan du Maroc prétend, je ne sais pas, être un des descendants de Mahomet. C'est pour ça qu'il est sultan.
Oui. Oui. Commandeur des croyants.
Oui, mais ça, les deux, si vous voulez. Et d'ailleurs, il faut se souvenir aussi qu'au 8e siècle, dès le 8e siècle, au moment où les musulmans, en gros les arabes, sont arrivés au Maroc, les Maures, qui étaient dans le sud, qui étaient les Kabyles de la région, se sont convertis, puisque c'était la seule façon de survivre dans ce genre de pays.
Ils étaient chrétiens, en fait, comme les Kabyles.
Comme les Kabyles, oui, tout à fait. Et le Maroc sera la base de la conquête de l'Espagne par les musulmans.
C'est ça.
Parce que je crois que là, il faut éviter de le faire, mais on a trop souvent on fait trop souvent la confusion entre arabes et musulmans. Or là, il y a un problème de dimension, c'est-à-dire tous les arabes sont musulmans, mais il n'y a pas que les arabes qui soient musulmans.
C'est ça.
Et on aura en Algérie, où on va parler des bureaux arabes, etc., etc., qui rendaient fous, furieux, les berbères.
Oui, bien sûr. Kabyles.
Enfin, voilà. Bon, donc, ils se réfugient. Donc, Abdelkader part au Maroc et persuade le sultan d'intervenir pour aller récupérer Tlemcen.
Oui.
Donc, leur armée arrive et sont battues. Il y a une bataille, qui est la bataille de l'Isli, enfin sur le fleuve Isli, enfin le fleuve ou l'oie d'Isli,
oui.
Qui est gagné par Bugeaud et qui les bat à plate couture. Du coup, à ce moment-là, le sultan du Maroc signe un traité avec la France et un an plus tard, il signe la convention de l'Ala Magna, en 45, 1845. Et cette convention, elle est très importante parce que elle définit elle définit la frontière entre le royaume du sultan,
oui,
et les possessions et la France.
C'est-à-dire pratiquement la frontière entre le Maroc.
Voilà, exactement.
Et ce qui va devenir l'Algérie.
Justement, frontière est définie de manière précise, depuis la mer jusqu'au col de Tenyat El Sassi, qui est à 70 km au sud d'Oujda. Donc, tu vois, ça doit faire 300 km à peu près de la mer, je ne vais pas regarder. Après ça, au sud, entre ce col et l'Atlas saharien, donc on répartit les tribus et les tsours entre celle-ci dépend de toi et celle-ci dépend de moi.
D'accord.
Beaucoup sont malades. Mais il n'y a rien au sud de l'Atlas saharien concernant le Sahara, qui est considéré comme la terre de personne.
Oui.
Mais ce problème de définition de la frontière, disons, pas simplement dans le Sahara, mais au sud d'Oujda,
oui,
parce que définit les tribus, mais les tribus se baladent d'un côté à l'autre, etc., etc. Et donc, cette définition de frontière va être la source de conflits assez fréquents entre la France et le Maroc. Et aujourd'hui, c'est toujours la source de conflits entre l'Algérie et le Maroc.
Oui, bien sûr. Les affaires se poursuivent. Pour dire à nos amis qui nous écoutent, il y a à côté de la gare Saint-Lazare une rue de l'Isli.
Oui.
C'est une évocation de cette victoire, comme il y avait une avenue de l'Isli ou une rue de l'Isli à Alger.
Ah oui, à Alger, une des grandes rues.
Où a eu lieu un massacre en 62, où ce sont malheureusement des mobiles français qui ont tué des Français.
Pas des mobiles.
C'est pas
la gendarmerie mobile.
C'est pas la gendarmerie, c'est
des soldats.
Français.
On en reparlera
au moment opportun. Oui.
Mais et là, Alger, en fait, il y avait parallèlement à la mer un très grand axe qui allait de la Casbah jusqu'au Palais d'été à peu près, qui était fait de la rue d'Isli dans la partie la partie ouest, et de la rue Michelet de l'autre partie.
Oui.
Enfin, voilà. Alors, donc, après la bataille de Isli, il y a aussi un accord entre la France et le sultan pour dire que Abdelkader n'est pas le bienvenu ni chez l'un ni chez l'autre. Et du coup, il revient en Algérie, Malouda revient en Algérie et réussit à soulever des tribus dans la région de Tlemcen. Bon, c'est facile, c'est juste à côté, etc., etc. Et là, il bat les troupes françaises dans une bataille près du marabout de Sidi Ibrahim, dont on a toujours parlé. Il y a anéanti une colonne d'environ 400 hommes.
Oui, ça a été à l'époque, ça a été considéré comme un revers considérable.
Considérable, tout à fait. Mais Abdelkader n'obtient pas et cherche à obtenir le soutien des tribus de Kabylie, qui n'en veulent pas, parce qu'il est arabe, les tribus de Kabylie sont berbères. Et il se réfugie de nouveau au Maroc, puis il se rend à la Mauricière le 23 décembre 1847, avec la promesse du duc d'Aumale de pouvoir être transporté en Orient, ce qui sera fait seulement 2 ans plus tard en raison des changements de gouvernement en France.
Bien sûr.
Mais alors je saute un peu dans le temps, mais Abdelkader aura une très belle conduite en Orient, au Liban où il est, en protégeant les chrétiens.
Pas persécuté par les Turcs.
Contre les Turcs, etc. etc. Et même vis-à-vis des Prussiens, parce que j'ai retrouvé là-dedans le texte d'une lettre que
Abdelkader.
De 1870, dans laquelle Bismarck avait demandé à Abdelkader, qui était en Syrie, son aide contre la France. Et voilà la réponse d'Abdelkader, traduite en français, parce que je pense que je ne sais pas comment elle était, je l'ai dit par les Français. « Louange à Dieu, Excellence, celui à qui vous avez adressé l'offre de marcher contre la très glorieuse et très généreuse France et de vous prêter le concours de sa loyale épée, devrait par mépris et dédain s'abstenir de vous répondre. Que nos chevaux arabes perdent tous leur crinière avant qu'Abdelkader Ben Mahi Eldin accepte de manquer à la reconnaissance qu'il a pour le très puissant empereur Napoléon III, que Dieu le protège. Que votre arrogante et injuste nation soit ensevelie dans la poussière et que les armes de l'armée française soient rougies du sang des Prussiens, que leur orgueil soit puni. Tel est le vœu du serviteur de Dieu. » Signé Abdelkader.
Eh bien, ça, c'est de la gueule. Voilà. C'est des choses qui font plaisir.
Exactement.
C'est des choses qui font plaisir.
Là, dans mes recherches pour préparer cette réunion.
Alors, on va passer le bobino.
Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Merci beaucoup. Donc, nous avons des approbations de nos auditeurs. J'en lis une. Bonsoir. Merci pour cette émission très intéressante. La guerre d'Espagne sous Napoléon, la guérilla a permis aux officiers français d'avoir de l'expérience pour la conquête de l'Algérie.
Exactement. Ouais.
Bien courtoisement. Merci. Cher auditeur.
Alors, quelle est la situation, là, en 1848, c'est-à-dire la fin de la monarchie de juillet et le début de la Première République.
La Deuxième République, qui va durer
une année, en gros.
48, oui. Il faut attendre 51-52 pour la transformation en empire.
Oui, d'accord, oui, tout à fait. Mais avant, il y aura...
Le prince-président prendra le pouvoir.
Ouais, voilà. Exactement. Ouais. Donc la France... La situation en 1948. Donc la France en Afrique du Nord, parce que c'est la France. On ne parle pas d'Algérie à ce moment-là, on parle des affaires français. La France en Afrique du Nord va de la Méditerranée jusqu'au Sahara, et au-dessous, après, il n'y a rien. C'est d'ailleurs pour ça que le Maghreb est considéré comme une île. Je crois que tu avais dit ça dans une émission précédente. C'est l'île. Oui. Parce que vu de l'Arabie, on voit un territoire entre deux mers, une mer d'eau et une mer de sable. Bon, donc elle va donc de la Méditerranée au Sahara et puis de la frontière marocaine à la frontière tunisienne. Et la seule exception importante, c'est la Kabylie. On en parlera après. La plus grande partie du territoire est en paix. Parce qu'il y a après Abdelkader, etc. Et dans la région du Chélif et de l'Ouarsenis, c'est-à-dire en gros à mi-chemin entre Alger et Oran, Boumaza, un jeune marabout, avait tenté de soulever des tribus et menacé Orléansville. Il a été battu et s'est rendu à Saint-Arnaud en avril 1947. Donc, et d'un autre côté, l'armée a continué la conquête du Sud en occupant Biskra, je crois que je l'avais dit tout à l'heure, en 1844, et les monts du Tsour en 1947. Et l'armée va poursuivre cette occupation, cette conquête du Sud, avec une ampleur réduite, parce qu'il n'y a pas grand-chose, c'est-à-dire la région des Bibans, puis les Aurès en 50, puis la région beaucoup plus au sud, des Oulets de Naïl et de l'Aguate, qui devient d'ailleurs la base pour les opérations dans le désert. Et la Kabylie sera progressivement occupée de 1850 à 1852. C'est une région très montagneuse avec des tribus un peu partout, donc il faut faire ça avec précaution,
oui,
alors qu'il n'y a pas de plaine.
C'est village par village. Oui.
Exactement. Et dans toutes ces opérations, il faut noter que l'armée d'Afrique a disposé de l'appui d'importantes troupes indigènes formées de volontaires.
Déjà.
Formées uniquement de volontaires. Il y a eu les Zouaves qui ont été créés en 1831, donc vous voyez vraiment un an après le début de la conquête. Les Spahis l'année suivante,
c'est
en
1832. C'est Louis-Philippe qui a créé les Zouaves.
Comment ?
C'est Louis-Philippe qui a créé les Zouaves.
Oui, tout à fait.
Comme c'est Louis-Philippe qui a créé la Légion étrangère.
Oui, mais les Spahis en 1932 et les Tirailleurs en 1941. Et ensuite, on crée des Goums, c'est-à-dire des organisations militaires locales en fonction des besoins. Donc voilà la situation. Et alors à ce moment-là, Bugeaud n'arrive pas à obtenir l'accord du gouvernement ni pour monter une opération en direction de Kabylie, ni pour ses projets de colonisation militaire.
Alors quel était ce projet de colonisation militaire?
On en parlera.
Parce que son idée c'était d'installer les militaires, donc.
Par
l'épée et la charrue, c'était sa devise.
Dès le début, l'occupation se réduit, enfin se réduit. L'occupation française est essentiellement dans des villages ou autour des villages, et tout le reste musulman.
Oui.
Et l'armée est chargée de contrôler ça.
Oui.
Et c'est là où on crée les bureaux arabes.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est bien la preuve d'ailleurs que on ne raisonne qu'en fonction des Arabes, qui sont ceux avec lesquels on a un contact depuis le débarquement de 1830, sans s'occuper de ce qui est une bonne partie de la population, qui sont les Berbères.
Oui, bien sûr.
Et qui ne parlent pas du tout arabe.
Ah ben.
Mais ça, on va en reparler.
C'est un des problèmes qui demeurent, d'ailleurs, en Algérie.
Oui, tout à fait. Mais ça a été, honnêtement, une des grandes erreurs de la France, de ne pas étudier la situation et de tout faire pour arabiser les Berbères. Quand on a formé des instituteurs, on les a formés à l'arabe.
Et on les a
envoyés dans les douars.
Oui.
Arabe, mais aussi Kabyle. Et d'où la réaction des Kabyles, etc. Mais ça, on en parlera. Donc, il ne parvient pas à obtenir l'accord ni pour la Kabylie, ni pour l'organisation militaire. Du coup, il se démet de ses fonctions de gouverneur général en septembre 1947 et il rentre à Paris, où il était député ou il va devenir député ou sénateur. Le duc d'Aumale, qui lui a brillamment combattu en Algérie, lui succède. Mais malheureusement, il aura un mandat très court, puisque 6 mois après la fin de son monarchie, c'est la fin de la monarchie d'Juillet. Et comme, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, comme on l'avait fait pour Bourmont en 1830, le nouveau régime veut se protéger d'une éventuelle intervention de l'armée d'Afrique. Il vire Aumale qui part rejoindre son père
en Angleterre,
et il est remplacé par le général d'Hautpoul, puis ensuite par le général Pélissier. Donc voilà comme il n'y aura à peu près plus d'opérations militaires Après, donc je m'arrête là, on en reparlera, mais il n'y aura plus que des révoltes de temps en temps, en particulier, il y en aura après la défaite de 1870.
Oui.
Mais qui est très gonflé par rapport à la réalité.
Donc là, tu commences un nouveau chapitre.
Alors, je commence un nouveau chapitre qui est la colonisation. Parce que là,
comment ça se passe ?
On contrôle le pays, et qu'est-ce qui se passe ? Alors, dès octobre 1830, parce que on avait un peu réfléchi, enfin, tout au moins, on s'est demandé s'il fallait rester en Algérie ou pas, ou simplement repartir avec, c'était un peu l'idée, je crois, de Charles X, repartir en victorieux en ramenant les troupes en Europe, ou au contraire, rester. Heureusement, on a choisi de rester. Et dès octobre 1830, c'est-à-dire là, c'est déjà le début de la monarchie de Juillet, le ministre de la guerre de l'époque, je ne sais plus utiliser, écrit à Clausel, le gouvernement est dans l'intention de fonder sur les territoires d'Alger une importante colonie. Alors Clausel y est très favorable parce qu'il y voit la possibilité de créer une colonie ou des colonies sur le modèle de ce qui se passe en Amérique,
oui,
avec les colonies d'origine et l'augmentation, le développement qu'elles prennent avec l'immigration européenne.
Est-ce qu'à l'époque, il faut bien comprendre que c'était l'Europe qui était excédentaire.
Oui.
Et donc c'est l'Europe dont les flux migratoires se déversaient sur le reste du monde.
Oui, tout à fait.
Et en particulier en Amérique, mais non seulement en Amérique du Nord, mais en Amérique du Sud, on oublie.
Tout à fait.
Beaucoup de ces pays ont été constitués, l'Argentine, avec des populations venant d'Europe.
Oui, mais il faut...
Et donc l'idée, à l'époque, était tout à fait admissible et
compréhensible. Oui, mais aussi parce qu'il y avait en Europe une grande densité de population. Et en gros, toutes les terres utilisables étaient utilisées.
Oui, c'est ça.
Étaient cultivées, etc. Et le problème qui se posait, c'était quand dans une famille, on avait trois garçons, comment on répartit les terres entre eux, etc., etc. Et c'est vrai. Et du coup, d'où le départ à l'étranger, etc., etc. C'est vraiment...
Ou le départ en colonie.
Et aussi, ça, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, et moi j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans mes activités professionnelles, il y a une très grande différence d'accueil de quelqu'un qui arrive en Europe, en France, ou etc., ou aux États-Unis, ou en Australie, ou en Argentine, etc. En France, je veux dire, on n'est pas très accueillant pour quelqu'un qui vient s'installer.
Oui.
Dans un immeuble où quelqu'un arrive, on regarde, etc., ouais, etc.
Plus dans un village.
Encore plus dans un village, exactement. Tout simplement, pourquoi ? Parce que la nouvelle personne qui arrive, il va falloir qu'elle trouve de la place pour s'installer, pour construire une maison, pour cultiver au 16e, 17e, 18e siècle. Alors que dans les autres pays, ce n'est pas le cas, parce que un habitant de plus aux États-Unis, c'était un fusil de plus contre les Indiens. Même chose en Argentine. Ça permet de comprendre ça. Oui. Et donc, aujourd'hui, de comprendre pourquoi la population partait. Donc, Alors donc, dès la fin de l'année 1830, Clausel fait prendre par le domaine, c'est-à-dire l'activité française, enfin l'État français, la possession des biens des Beyliks et des Habous, c'est-à-dire en fait des biens qui appartenaient soit à l'administration turque,
oui, les Beyliks,
Beyliks, et soit les Habous qui étaient des confréries religieuses ou autres, dont beaucoup n'étaient pas sur place et étaient repartis. Donc, il prend les terres et les bâtiments et il les prend, mais avec l'obligation pour le domaine d'en assurer la gestion, comme c'était fait précédemment. En fait, il veut ainsi créer une réserve de terres pour les futurs arrivants. Et quand on nous reprochera d'avoir spolié, etc., etc. On n'a spolié personne, puisque c'était des terres qui appartenaient aux Turcs, qui voilà. n'étaient plus là.
Voilà. C'était des res nullius.
Voilà. Alors, rapidement, il y a des Européens, français bien sûr, mais aussi espagnols, italiens, puis on dit anglais, mais c'est en maltais.
Maltais.
Qui arrivent à Alger en 1835, donc ils sont environ 7000. Alors, ils s'installent d'abord dans les villes, comme commerçants, puis dans les campagnes voisines. Mais il n'y aura jamais plus que la moitié dans les campagnes, même en général un peu moins. Alors, comment ils s'installent ? Alors, dans la Mitidja, voisine d'Alger, pour organiser leur installation, on met en place le régime des concessions. C'est-à-dire que l'administration accorde gratuitement, à titre provisoire, quelques hectares de terre à un concessionnaire avec des conditions d'exploitation définies, c'est-à-dire construction d'une maison, débroussaillage et surtout culture. Et si ces conditions sont remplies, au bout de 3 ans, ça permettra au concessionnaire d'en obtenir la propriété. Oui, et dans le cas contraire, les terres retournent à l'État.
Au domaine. Ouais.
Et donc cette propriété, c'est pour ça que dans le langage de l'Algérie, on ne disait jamais qu'on allait à la ferme, mais on disait toujours qu'on allait à la propriété.
Oui.
Parce que c'était ça. Et très récemment, j'avais un de mes amis d'enfance qui est dans la région de Montpellier, qui a son épouse avait des vignes près d'Avignon. Il me dit, bah oui, on se retrouvera à la propriété. Alors qu'on est parti d'Algérie quand on avait 18 ans l'un et l'autre. Bon, c'est ce mot culture. Alors, pour la Mitidja, l'un des conditions, c'est la Mitidja d'une très vaste plaine marécageuse qui doit faire à peu près 300 km de long et qui est coincée entre l'Atlas et des collines au bord de la Méditerranée. Et donc, la principale condition qu'on fixe au concessionnaire, c'est l'assainissement des terres qui se pratique mais surtout en perçant la couche imperméable de calcaire qui se trouve sous la surface du sol afin d'évacuer l'eau des ouèdes.
Drainer, le drainage,
exactement. Donc voilà, ça se passe relativement bien. Il y en aura relativement peu qui seront. Disons qu'ils n'arriveront pas au bout de 3 ans à avoir fait ce qu'il fallait faire.
Mais enfin, il y en a quand même pas mal qui ont attrapé des maladies, là.
Alors, je vais venir. Attendez.
Parce qu'il ne faut pas croire, la colonisation s'est faite
seulement
avec de la sueur, mais du sang.
Tout à fait. Les conditions de vie sont très dures.
Très dures.
Il faut arracher les roseaux. Enlever les palmiers nains, etc. L'insécurité est grande avec les razzias des adjoutes.
Oui.
Et les conditions sanitaires sont épouvantables, avec une mortalité effrayante, en particulier due aux fièvres, au paludisme.
Oui.
Par exemple, à Abou Farik, en 1837, il y a 39 décès sur 350 habitants.
Oui.
On le savait, oui. Presque 15% à peu près. Oui. Il y en a encore plus après. Et en 1839, l'attaque d'Abdelkader va ruiner bon nombre de ses colonies.
Oui.
Alors, si vous permettez, je peux vous donner une image personnelle de cela.
Oui, après,
une partie de ma famille vient de la région de... Attendez, je retrouve de la Bourgogne, mais de la Bourgogne plutôt dans l'intérieur des terres.
D'accord.
J'ai le nom des villes, parce que voilà. Hop. Bourgogne de l'intérieur des terres, loin de la rivière, près de... Dans la zone près de... les villes, c'est Alré. Alry et etc. C'est un arrêt de l'autoroute. Ouais, ça me reviendra. Je suis désolé, j'ai mal. mal écrit. Donc là, la famille est installée depuis une famille. Ma famille est installée depuis longtemps. Enfin, oui. Elle est installée là.
Et bourguignonne.
Et le
Mâcon, peut-être, non?
Comment?
Mâcon.
Non, non. Oui. Non, plutôt près de
Beaune.
Non, non. Ah, je suis confus. Hein,
bon, peu importe. Vas-y, continue. Ça va revenir.
Au nord de Lyon, la grande ville du vin. Bon. Hop, où est-ce que je l'ai noté? Près de Pouilly en Aulçois.
Voilà.
Oui, voilà cette région-là. Donc, l'un d'eux donc, s'appelle Antoine. Il est né en janvier 1793. Vous voyez, il a été d'abord boulanger, puis ensuite cultivateur, sans doute un moment d'un héritage, etc., etc. Et il a deux fils. L'un Claude, qui s'appelle Claude, qui est né en 1826, et le deuxième, Alexandre, qui est né à Lry en janvier 38. Mais alors, pour je ne sais quelle raison, lui et sa famille partent pour l'Algérie en 1840.
Oui, très tôt, donc par conséquent.
Très tôt, oui, tout à fait.
Très tôt.
Très tôt. Et il est admis à s'établir en Algérie parce qu'il a à la fois un pécule et une bonne connaissance de l'agriculture,
de la terre,
etc. etc. Ouais.
Oui, oui, oui.
Alors, il s'installe dans la Mitidja, à Oued El Alog.
D'accord.
J'existe toujours. Mais là, effectivement, dans les lettres qu'on a retrouvées, qu'il écrivait, lui, c'est il y a des problèmes de... Il y a des problèmes de santé, des moustiques un peu partout, etc.
Oui, bien sûr.
Il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a des hyènes, des chacals, des panthères, des serpents.
Bah, oui,
vous voyez,
c'est
une région. Une région. Et les pillards. Voilà. Du coup, il est toujours armé. En revenant du village. Mmh. Et en 1846, donc quelques années après, il laisse tomber son fusil, le coup part et le blesse et il meurt.
Ah bon? D'accord.
Donc,
Mais il est installé.
Mais il est installé. Il a des enfants. Sa femme et ses enfants partent à ce moment-là à Alger.
D'accord.
Pour ne pas rester dans le bled parce que les enfants, le fils aîné est majeur, mais il a 20 ans. Et pas tout à fait majeur, mais le deuxième est beaucoup plus jeune.
D'accord. Tu descends duquel?
Du deuxième.
Du deuxième.
Alors le deuxième, alors je termine là-dessus rapidement.
Mais c'est très intéressant.
Oui,
donc,
le deuxième,
donc ta famille est installée en Algérie depuis 1840.
Oui.
Bon,
Attendez, mais je continue sur le deuxième.
C'est passionnant parce que ça prouve une possession historique qui est absolument incontestable.
Oui, tout à fait. Les terres à Oued El Alog qui lui ont été données, qui sont, c'était au bout de 6 ans, qui lui appartiennent et qui resteront plus ou moins dans la famille, etc. Alors donc, le fils s'appelle Alexandre, qui est né en 38, fait un peu d'études à Alger, mais il rentre chez un imprimeur, apprend le métier d'imprimeur. Il est envoyé ensuite par l'imprimeur en disant « Va monter une imprimerie à Blida ».
Et il monte
imprimerie à Blida. Oui, c'est pas,
c'est pas passionnant. Oui.
Il devient maire de Blida, conseiller général, etc. etc.
Donc, s'il y avait des imprimeries, ça veut dire qu'il y avait déjà une population suffisante pour avoir un lectorat.
Oui, mais ça, c'est dans les, années 50, 60.
Oui, mais c'est passionnant parce que ça prouve que c'est une société qui existe.
Oui.
On fait comme si cette société n'avait jamais existé. Mais c'est faux. On peut dire qu'à partir dès les années 1838 et qu'à 1840, il y a une société française qui est peut-être composée de gens très divers, mais qui forme un fonds de société humaine et qui vivent au milieu des tribus arabes, au milieu des Kabyles. Et tout ça n'est tout ça existe. Voilà.
Alors, je vais raconter donc la suite. Donc, il devient maire de Blida, puis il devient député, puis sénateur dans les années. Fin des années 1800, au début des années 1900. Il a une fille, qui est mon arrière-grand-mère.
D'accord.
Qui épouse un magistrat français, etc., fils d'officier, ainsi de suite. Et Alexandre meurt en 1916 ou 1917, mais tout reste dans la famille. Et il y a des terres aussi près de Bougy, mais je reparlerai une autre fois. Mais les terres près de Bougy, par exemple, il achète un domaine près de Bougy. Et,
merci.
Et sur ces terres, il y a les restes d'un aqueduc romain qui approvisionnait Tipaza et le fait remettre en eau. Et alors juste, je termine donc sur l'imprimerie. L'imprimerie reste dans notre famille jusqu'en 62. Et à ce moment-là, quand un certain nombre d'entre nous partent, un de mes oncles reste, dont la ferme venait d'être nationalisée, reste en Algérie, dirige l'imprimerie pendant une quinzaine d'années. Une de ses cousines, beaucoup plus jeune, qui est la fille d'un des artisans du 13 mai, qui était parti en Espagne et qui vivait en Espagne pour pas tomber dans les geôles gaulliste, cette fille vient s'installer là-bas et gère l'imprimerie jusqu'à son décès. Et cette imprimerie, chose amusante, juste sur son décès, je crois que c'est en années 75 ou à peu près, et cette imprimerie est une des rares qui continue de fonctionner en Algérie et qui imprime tous les documents officiels algériens.
Mais elle est entre les mains de qui en ce
moment? Personne n'a voulu y aller après. Bien sûr.
D'accord. Alors, nous avons je t'interromps parce que nous avons une des questions là d'un auditeur qui sont, je crois, des questions intéressantes. Aurais-je vraiment bien entendu? Ce serait donc Abdelkader lui-même qui aurait été à l'initiative de son exil, précisément au Proche-Orient.
Oui.
Ce serait donc lui qui aurait fixé son pays de destination.
Oui. Il a demandé, donc voilà, c'est lui, au moment où il s'est rendu, dans les conditions, c'était « je veux partir en Orient ».
D'accord.
Près de la Mecque, enfin, le plus...
Bien sûr, en Syrie. Pourtant, j'ai toujours entendu dire que c'est la France qui aurait choisi d'exiler Abdelkader loin de l'Algérie et en Syrie en outre.
Non.
Enfin, c'est fait par un accord, en fait.
C'est un accord, mais Abdelkader demandait à aller là-bas.
D'accord.
C'est
intéressant. Donc on répond à notre ami qui pose des questions. Pourtant, bon alors, je suis perplexe et perdu en entendant que ce fut la décision de ce grand émir. Autre point, la France aurait favorisé l'arabisation des Amaziques berbères, dites-vous. Mais alors, qu'est-ce au juste que le fameux Dahir berbère, supposé respecter légalement le monde amazigh berbérophone?
Non mais...
Un grand merci pour cette émission, tout autant instructive et bien expliquée que sa sœur aînée. Bien, relis ça, là, c'est le dernier paragraphe. Essaye de répondre à notre ami auditeur.
Non mais le respecter, c'est le... Regardez, le traité de reddition d'Alger dit qu'on respectera les coutumes, etc., etc. Mais si les gens veulent changer, ils changent. Et donc, là-dedans, le Dayababa, c'est respecter la langue berbère, pas leur imposer le français.
D'accord.
Et pas... Je me souviens pas du Dahir berbère, mais c'est le... C'est pas incompatible.
D'accord. Très bien, ben merci. Et merci, cher auditeur, de suivre avec intérêt cette émission. Alors, où en étions-nous? Donc maintenant, tu nous as raconté ton épopée familiale, qui est très intéressante. Et alors, dis-nous... La suite
j'ai
de cette colonisation.
Des concessions.
Oui, tu as encore 10 minutes, un quart d'heure.
Et
15 minutes.
Il y a aussi... À côté de ça, s'installe aussi la colonisation privée, c'est-à-dire des Européens qui arrivent et qui en gros principalement françaises, et qui s'installent en achetant des terres
oui.
et en y investissant leur argent et leur énergie. Un des bons exemples, c'est le baron de Vialard
oui.
qui fait ça. Et dans d'autres cas, l'État accorde de très grandes concessions, moyennes en finances d'ailleurs, par exemple, à le prince polonais Światopolk Demir obtient une concession de 4000 hectares à Fort-de-l'Eau, donc près d'Alger. Mais il n'y arrive pas,
oui.
il se ruine, au bout de 3 ans, il est en faillite.
mais il y a d'autres qui réussissent. C'était 4000 hectares de roseaux, de...
Tout à fait. Non, oui. Mais surtout oui. aussi, c'est que le problème est oui. celui de la main-d'œuvre.
Oui, bien sûr.
Et comme en 1848, l'esclavage a été interdit,
oui.
Ben, il n'y a plus pas d'esclaves. Oui. Donc il faut trouver des volontaires pour le faire. Alors, souvent, les colons préfèrent trouver des volontaires européens,
oui.
par exemple, espagnols, que des volontaires arabes.
Oui.
Pour des questions de qualité du travail et autres.
Oui.
En gros, ils acceptent de payer les Espagnols deux fois plus cher que qu'ils payent les Arabes.
Oui, et puis parce que probablement... comme ça s'est fait jusque régulièrement, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a touché sa paye
du mois
ou de la semaine, il s'en va parce qu'il a d'autres chats à fouetter.
Oui.
Oui, oui. Donc il n'y a pas d'installation d'un véritable personnel. Oui.
Tout à fait. Alors, donc, je parle donc des grandes concessions, mais il y a aussi beaucoup d'immigrants pauvres qui cherchent un moyen de vivre en achetant à crédit. Ça s'appelle le contrat d'Anna, des terres.
Oui, oui.
Et les indigènes vendent facilement, parce qu'à ce moment-là, c'est dans les années 40.
Ça leur fait un pécule.
Oui, mais surtout, ils croient oui. que les Européens ne resteront pas.
Ah oui, c'est ça.
Donc je vends des oui. terres, mais de toute façon, quand ils partiront, je les récupérerai.
D'accord.
Alors je traiterai une autre fois tout le problème de l'allocation des terres entre les Arabes, etc., etc. Parce que c'est assez complexe. Donc,
oui, oui.
Là, en 10 minutes, je n'y arriverai pas.
Mais enfin, il n'y a pas eu, contrairement à ce que raconte la légende que répercutent les journaux de gauche, il n'y a pas eu de spoliation systématique.
Non, là, ce sont des terres, des béylites, parce qu'en plus, on est près d'Alger.
Oui.
Donc, et puis, la métisse
des terres inexploitées.
Oui, à l'époque, elles étaient inexploitables. Là, parce
et inexploitables, en plus.
Du marécage, donc
oui,
personne.
Exactement.
Et dans des zones de passage de tribus, parce que là, on n'est pas dans la Kabylie,
oui.
on est dans la plaine, donc ce sont des tribus nomades qui passent. Donc, alors, par exemple, il y a des groupes de maisons qui se créent et qui donnent naissance à des agglomérations. C'est-à-dire que en général, on construit pas sur la ferme, sur l'exploitation agricole, on construit dans un village.
Et on se regroupe, probablement pour des raisons de sécurité.
De sécurité, d'amitié, etc.
Amitié,
etc. Alors, par exemple, une des agglomérations, là, c'est Boufarik,
oui.
qui est à mi-chemin entre Alger, bon, plutôt proche de Blida, mais enfin entre Alger et Blida, qui se crée comme ça, toute seule, sur le lieu où il y avait un marché.
Oui.
Donc, par exemple, alors, bon, et puis d'un autre côté, les surfaces ne sont pas énormes, puisque quand on regarde en 39, donc après quelques années, il y a 316 familles. Donc 1500 personnes à peu près, qui avaient bénéficié de concessions dans la région.
Donc c'est pas dans la région de...
De la Mitidja.
Enfin,
c'est pas des milliers de personnes.
Oui, oui, oui.
Et alors d'autres villages se créent comme ça, les colons s'installent et puis créent un village entre eux, etc. Ou bien d'autres, il y en a d'autres qui s'établissent près d'un camp militaire, pour une raison évidente,
bien
parce
sûr.
Que, un, il y a une route,
oui, oui.
et deux, il y a des soldats qui peuvent nous...
Et ensuite, il y a aussi un hôpital éventuellement.
Voilà. Oui, tout à fait. Et puis aussi,
il y a des services
parce
de santé,
que une bonne partie des cultures sur les nouvelles terres, c'est pour les animaux, c'est pour les chevaux.
Bien sûr.
Les chevaux ou les mulets, et ainsi de suite.
Bien
et
sûr.
Donc, le fait d'être tout près, ben, on est directement du producteur au consommateur.
C'est ça.
Alors, mais aussi, par exemple, je disais tout à l'heure que le prince polonais qui fait faillite, mais quelques années plus tard, ce sont des Mahonais qui venaient pêcher dans la région, qui s'y installent, ils en sont à Fort-de-l'Eau, et qui, à ce moment-là, font du maraîchage.
Oui.
Et puis, il y a aussi, là aussi, sur le plan culturel, c'est près de, un peu plus au sud, près de Coléa, il y a un groupe de cultivateurs suisses venant du Valais qui s'installe. Oui. Et là, c'est un village, c'est près d'Oran, par exemple, au sud d'Oran, se crée un village qui deviendra la ville de Sidi Belabès.
Oui.
On ne parle pas encore de la Légion étrangère.
Oui.
Il y en a
et
d'autres.
Là, et l'origine des habitants, c'est...
Je ne sais pas.
Non,
mais en gros, mais on peut. Moi, j'étais très étonné par ça. En gros, les statistiques jusqu'en 1870 à peu près montrent que dans les immigrants résidant en Algérie, il y avait en gros moitié de Français et moitié d'Européens non français.
C'est ça.
Espagnols principalement, Italiens aussi,
Maltais.
Maltais, plus quelques autres.
Bien sûr.
Mais donc, c'est une population, mais qui n'est pas énorme. C'est pas.
Oui, c'est pas un flux qu'on sait pas. D'abord parce que le français lui-même, par nature, n'est pas un. Il est tellement bien chez lui que c'est pas du tout un être à vouloir fuir son pays.
Oui, et puis.
C'est... Autant les Italiens partaient et quittaient parce qu'ils étaient trop nombreux sur une terre pas assez riche. Mais. En France, justement, comme tu as donné l'exemple de tes ancêtres, on voit très bien, c'est un peu par nécessité qu'ils sont partis. Voilà.
Oui, tout à fait. Mais il y a aussi, à cette époque-là, c'est la concurrence de l'attrait des États-Unis, de l'Argentine, du Brésil, etc. Il y a, je ne sais plus... ou un village qui est créé, enfin une concession qui est donnée à un groupe d'Allemands, de je ne sais plus où, qui attendaient à Dunkerque l'arrivée d'un bateau qui les amènerait au Brésil.
Oui.
Et le bateau n'est jamais arrivé. Et donc, ils en ont eu assez, et hop, on leur a proposé
d'aller en Algérie.
Et ils sont arrivés en Algérie. Voilà le...
Non, mais c'est très intéressant.
Oui. C'est... Alors, donc, la colonisation s'installe petit à petit, les cultures
se développent,
mais c'est principalement du blé, de l'orge, etc., pour le pain, pour les chevaux, ainsi de suite. Il y a, à certains endroits, par exemple... on va avoir des cultures d'orangers.
Oui.
Et par exemple, je ne sais plus qui, je crois que c'est Vialard, mais je n'en suis pas sûr, qui implante les mandariniers en Algérie. Et quelques années plus tard, il y aura des croisements entre le mandarinier et l'oranger, fait par un religieux qui s'appelle le Père Clément, qui donnera naissance à la clémentine.
Voilà, je ne savais pas.
Oui, c'est dans la région
l'origine d'Oran. Du mot Clémentine.
Je crois que c'est à Misserdine, près d'Oran, que ça... Ah, c'est le...
Alors justement, puisque tu parles du Père Clément, comment, autour, quand les villages se créent, évidemment, ces populations, il y en a elle est généralement d'origine chrétienne, catholique même, pour ce qui est des Espagnols et des Français.
Il y a déjà un peu une organisation religieuse.
On commence à construire des églises et...
Très peu, mais aussi parce que une bonne partie de l'organisation et de l'administration est franc-maçonne.
Oui.
Donc.
Maçonnique.
Exactement.
Et donc il y a des ordres assez stricts qui viennent.
Je ne sais pas, mais enfin.
Et en fait, on n'a pas du tout cherché à. À convertir, à faire du prosélytisme auprès des populations indigènes.
On verra un petit peu après, mais ça va être surtout...
Les Pères Blancs arrivent en quelle
période ? On va créer, je ne sais plus.
Tu regarderas ça pour la prochaine fois.
Pour la prochaine fois, oui. Mais c'est pas... Et ensuite, très rapidement, parce que la population européenne dans ce qui est l'Algérie sera... en 1870 de l'ordre de 200 000 personnes.
Oui.
Donc c'est pas.
Mais enfin, quand même, ça fait une grosse, ça fait l'équivalent d'une grosse ville.
Bon, oui, 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 mais elle est très, très dispersée.
Oui, elle est très dispersée.
Entre les villes, etc., etc. Donc,
enfin, Alger, qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir au moins 20 000 personnes à Alger, non? Non.
Bon, je pense pas.
Même pas.
Oh, non, non, je pense pas, parce que, au contraire, c'est le moment d'ailleurs où les Arabes ou les Berbères viennent dans les villes.
Ah oui.
Alors qu'avant, il y en avait très, très peu.
Oui.
Alger, il y avait personne. Je verrai ça. Hein. J'ai pas prévu.
Tu vas
en parler aujourd'hui.
Alors, il te reste 5 minutes pour nous faire une. Pour soit finir, soit nous faire une conclusion.
Non, non, alors je parlerai ensuite la prochaine fois des colonies agricoles. Oui. Mais donc, c'est l'organisation de convois pour aller en Algérie. Mais. Ce que j'ai noté, c'est que quand les convois partent, il y a 500 ou 600 personnes en bateau pour aller vers Aix-en-Provence, etc.
Oui.
C'est en général avec la bénédiction d'un prêtre et l'appui de la loge maçonnique.
D'accord.
Et d'ailleurs, de grands domaines de colonisation, etc., c'est organisé par les Saint-Simoniens.
Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est l'époque du. Du saint-simonisme, tout à fait. Oui,
je suis désolé, je n'ai pas prévu d'en parler parce que ça nécessite un peu de développement. Je m'étais dit que j'allais être un peu pris par le temps. Mais donc, on peut dire que donc, on se trouve là, disons, au début du Second Empire,
oui.
Avec un pays, je ne dis pas organisé, mais enfin, un pays pacifié, défini, etc., etc., et un début de création de centres européens,
oui.
De culture européenne, etc., etc., dans les villes et dans les villages. Mais très, très dispersé, parce que l'ensemble est immense.
Et puis alors, une chose que tu nous as dite tout à l'heure et qui m'a impressionné, c'est que déjà, dans les troupes, on a des indigènes qui se sont mis au service de la France et qui sont organisés militairement.
Ça a commencé, ça, dès 1830. Hein. Il y a eu des volontaires qui sont arrivés voir les troupes françaises en disant « On s'engage,
on s'engage, on vient. » Oui, des Arabes.
Oui, tout à fait. Au début, c'était essentiellement des Arabes.
Oui,
après, parce que, comme je l'avais dit la dernière fois, quand on regarde l'Algérie, il y avait, en 1830, il y avait quelques îlots turcs dans les ports, Oran, Alger, etc. Il y avait une population arabe entre la mer et l'Atlas, et dans l'Atlas, c'était des Berbères.
C'est ça, oui, bien sûr, on comprend bien.
Avec des tribus qui s'entendaient pas.
Avec ce que tu viens de nous dire, il ressort quelque chose, c'est-à-dire que bien sûr, il y a eu des heurts, des violences, etc., tout ce que l'on veut. On n'entre pas sur un territoire sans casser des choses. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on voit quand même apparaître déjà la constitution d'une certaine unité plus profonde.
Oui.
Et finalement, Abdelkader a reconnu une sorte de souveraineté française, et la façon même dont il en parle fait qu'il respecte la France. Donc il y a un respect.
Oui.
Et moi, je trouve ça admirable, ce respect qui devait être d'ailleurs très probablement un respect mutuel.
Oui.
Je vois mal les peut-être qu'il y a eu des actes répréhensibles, mais connaissant la mentalité d'un officier français de cette époque, on voit très bien que, comme de toutes les époques, l'officier français devait avoir une certaine allure et devait traiter avec en particulier avec les chefs, avec une certaine égalité, un certain sens de l'honneur, de la parole donnée. Et tout ça, c'est important parce que moi, je pense que cette société, elle a été construite là-dessus.
Mmh.
Et que ce qui a été déchiré, c'est cela.
Oui,
parce que maintenant, c'est un mépris mutuel.
Oui.
Et c'est une haine mutuelle qui n'aurait jamais dû exister.
Non,
et les gens de gauche ne se posent jamais la question de savoir pourquoi ça existe.
Je ne suis pas convaincu de l'étendue de la haine mutuelle.
Oui, parce moi non plus. Moi non plus d'ailleurs.
Il y a quelques années, deux ou trois
non,
ans.
Non, elle est entretenue cette haine,
oui.
C'est tout.
Non, mais.
Il y a des gens qui ont l'esprit pervers.
Non, mais il y a quelques années, j'avais eu un contact, j'avais organisé une conférence avec un ancien officier français, mais qui avait passé plusieurs années en Algérie, après avoir pris sa retraite d'officier supérieur, comme fonctionnaire de l'ONU. Et qui me dit, qui a fait ça en disant, mais à Alger, donc c'était il y a 7-8 ans, à Alger, dans la rue, on parle toujours de la rue Michelet pour donner rendez-vous, et pas de la rue Didouche Mourad.
Voilà.
On dit, ah oui, à l'époque, il y avait telle chose qui était bien. On dit pas, on précise pas l'époque parce qu'il n'y en avait qu'une seule. Mais
merci Jean, ça fait la conclusion.
Voilà.
C'est parfait, merci beaucoup.
Venez d'entendre le libre journal de la réaction dirigé par Hilaire de Crémier, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 21 avril 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.